autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour nous demander comment faire face au présent, comment relever les défis qui nous attendent dans tous les domaines, comment affronter les crises multiples, les bouleversements annoncés ou pas, comment recréer du lien, comment inventer ici et maintenant un futur désirable pour tous. Autant d'interrogations essentielles à partager ensemble pour la 4e édition de la Nuit des Idées. Ce sera demain, jeudi 31 janvier, sur tous les continents, en avant-goût à la veille de cette nuit de libre-échange, de libre circulation des idées et des savoirs. Nous vous proposons de découvrir quelques-unes des pistes de réflexion qui seront développées autour du monde par nos invités, le mathématicien Cédric Villani, qui sera à l'Institut français de Niamey, au Niger, l'économiste et écrivain Felwine Sarr, qui sera lui à Washington, et la juriste Émilie Gaillard, qui plaidera à Paris pour le droit des générations futures. Autour de la question, comment faire face au présent, toutes les bonnes idées sont bienvenues. Et les idées fusent déjà face au présent. Qu'attendez-vous? Qu'entendez-vous? Le philosophe Frédéric Worms ouvre pour nous la réflexion de cette nuit des idées depuis l'École normale supérieure à Paris, où il animera un vrai faux Parlement européen.
Moi, quand j'entends face au présent, j'entends un peu d'inquiétude. Le présent est devenu un peu dangereux, un peu pressant, un peu plus que d'habitude. Ce qui est présent pour nous, c'est ce qui concerne notre vie, ce qui concerne notre corps et ce qui peut éventuellement nous menacer. Mais c'est aussi ce qui peut nous faire plaisir. Et quand on dit face au présent, je pense qu'on est surtout du côté de l'inquiétude, qu'on fait un diagnostic un peu sombre, qu'on a même peur pour l'avenir ou qu'il n'y ait plus d'avenir. Mais on est aussi dans l'idée qu'on peut l'affronter, on peut résister, on peut construire le présent.
Comment faire face au présent? Nouvelle piste de réflexion et changement de regard avec la philosophe et éthologue Vinciane Després, qui depuis le Théâtre National de Liège en Belgique pour cette Nuit des Idées fera comme ça face au présent.
C'est apprendre à jeter un regard dans le présent pour y voir des choses que peut-être on n'a pas vu. Et je me souviens d'une phrase de Virginia Woolf qui disait « Le futur est sombre, ce qu'un futur doit être ». Et Rebecca Solnit, l'essayiste américaine, reprend cette phrase en disant « Attention, quand Virginia Woolf dit sombre, elle ne veut pas dire tragique. Elle veut dire obscur dans le sens de ne pas être parfaitement lisible, de ne pas être parfaitement prévisible et de receler quantité de possibles. » Et je pense qu'être face au présent, c'est une invitation à activer ces possibles.
Pour activer tous les possibles face au présent de Liège jusqu'à Ljubljana en Slovénie, nouvelle piste du philosophe des sciences Bruno Latour qui sera lui à l'Institut français de Ljubljana pour cette Nuit des Idées.
Face au présent, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Tout le monde essaie d'éviter d'être face au présent. Donc on est d'habitude dans le passé, on s'intéresse au passé. Ou bien on est préoccupé par l'avenir, mais être au présent, c'est la chose la plus rare. Et en particulier parce que l'époque, comprendre l'époque au présent dans laquelle on est, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Donc c'est pour ça que j'étais intéressé par le thème. C'est un thème qui concentre l'attention sur quelque chose qui n'est pas du tout dans l'esprit des gens.
Autour de la question comment faire face à ce que notre présent exige, comment résister aussi à la dictature de l'instant, avec quelle mémoire et pour quel avenir? Piste de réponse musicale maintenant du côté de l'Institut français de Kampala en Ouganda. La Nuit des Idées donnera la part belle au groupe Afrigo Band, ex-Crane Band, le plus ancien et le plus emblématique groupe musical du pays, précieux témoin de toute l'histoire parfois tragique, mais aussi de toutes les évolutions de la société ougandaise. Concert et débat à Kampala demain soir. Et tout de suite sur RFI avec la Frigo Band.
Up.
Le groupe ougandais emblématique Afrigo Band sera en concert et en débat à l'Institut français de Kampala demain, jeudi soir, c'est en Ouganda, pour la Nuit des Idées. Autour de la question comment faire face au présent, de Kampala jusqu'à Dakar et même jusqu'à Washington et New York, où l'économiste et écrivain Felwyn Sarr partagera ses pistes de réflexion et d'inspiration à l'ambassade de France à Washington, où il sera en très bonne compagnie avec entre autres l'écrivain afro-féministe et génial Chimamanda Ngozi Adichie, écrivaine nigériane. Les échanges devraient être des plus fertiles, d'autant que Felwyn Sarr, auteur d'Afrotopie, vient juste d'organiser à Dakar, avec l'historien Achille Bembe, la première école doctorale des ateliers de la pensée. Felwyn Sarr qui sera aussi à New York pour partager ses idées le 2 février prochain à la Brooklyn Public Library. Nous l'avons joint par téléphone à Dakar juste avant son départ pour les États-Unis.
Oui, je serai à Washington d'abord le 31 janvier et je serai ensuite à New York 2 jours après.
Face au présent, vous allez réfléchir avec d'autres penseurs. Il y aura la célèbre écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie qui sera également à Washington. Pour partager, quelle piste face au présent ? Pessimiste, optimiste, afrotopiste, Felwyn Sarr ?
En fait, ce à quoi je compte réfléchir et sur quoi je vais échanger, c'est cette idée de dire qu'on est dans un monde en basculement et comment est-ce qu'on fait face au basculement du monde et comment est-ce qu'on apprend à refaire le monde. Donc l'idée d'être présent d'abord, elle m'intéresse du point de vue de même la notion de la présence, être là pleinement, donc en pleine responsabilité, en pleine conscience. Et je vais développer des pistes pour ce que j'appelle une montée en humanité. Donc passer un présent qui bascule vers où on ne sait pas trop. Donc voilà, on a plusieurs défis. On a un futur qui est devenu un temps sans promesse. Sinon, la seule promesse, c'est d'éviter la catastrophe écologique, entre autres. Donc comment est-ce qu'on fait face à un tel présent ?
Être présent dans ce présent gros d'incertitude, j'imagine que vous êtes intéressé par notre autre invité du jour, Émilie Gaillard, qui est juriste et qui plaide pour le droit des générations futures. Face au présent, pour se projeter dans l'avenir, il faut penser aussi aux générations futures.
Oui, absolument, parce que justement, le présent, ce n'est pas le présentisme, ce n'est pas juste la moralité du temps qui consiste à surdéterminer le temps présent et à oublier les autres modalités, donc temporelles, le passé et le futur. Et peut-être faire face au présent, à ce présent-là, c'est faire face à une plénitude, à une totalité. Donc la question des générations qui viennent est absolument importante du point de vue de l'écologie, des ressources que l'on laisse, et du point de vue du monde qu'il faut laisser habitable, quoi. Donc ce présent-là, ce n'est pas le présentisme. Le présentisme, quoi, c'est une manière de surpondérer le temps présent au détriment des autres temporalités, le passé et le futur.
Est-ce que justement pour être présent, mais aussi préparer le futur dans cette période charnière, dans cette période de basculement, est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez organisé à Dakar l'école doctorale des ateliers de la pensée en réunissant les têtes pensantes, les têtes chercheuses du continent pour penser, et de la diaspora, hein, pour penser sur le continent un autre présent et un autre futur ?
Absolument. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que le futur et le présent avaient son lot de défis à relever, et pour les relever, il était nécessaire que les jeunes chercheurs du continent se mettent dans l'idée de produire de nouveaux savoirs. Et ces nouveaux savoirs-là, il fallait justement les mettre en chantier, puisque les temps à venir vont apporter le lot de problématiques à résoudre, et forcément, pour ces problématiques-là, il n'est pas dit qu'il ne soit pas nécessaire d'innover un peu, et de se fonder sur une pluralité donc, d'archives intellectuelles, cognitives et culturelles. Donc c'est pour ça qu'on a pris avec Chine Bembe, on a monté cet atelier-là pour engager les jeunes chercheurs à être dans ces voies-là, en fait.
Pour innover avec l'historien Achille Bembe, Felwyn Sarr, pour innover, pour imaginer un autre futur, c'est probablement au sud et notamment sur le continent africain que peut quoi émerger autre chose, une autre manière de vivre, d'être, de penser le présent et l'avenir.
On pense que le continent a l'opportunité d'être un laboratoire. Il peut être un laboratoire pour plusieurs raisons, en fait. Pour des raisons démographiques, pour des raisons d'espace, pour des raisons de pluralité et de multiplicité d'expériences. Et surtout, du fait qu'il doit se réinventer s'il veut faire face à ces défis. Donc on pense que ouvrir ces chantiers-là, le continent est le lieu intéressant, c'est un bon observatoire pour entendre ces choses-là. Et surtout, du fait qu'il n'est pas vraiment engagé dans l'aventure industrielle du XXe siècle finissant. Et donc, il a la possibilité d'inventer autre chose et de faire différemment.
Comment inventer autre chose? Comment faire différemment à partir du continent? Comment organiser aussi la libre circulation des êtres humains, évidemment, et de leurs idées? Je propose, Félouine, d'écouter l'éclairage d'un archéogéologue, Laurent Bruxelles, qui était récemment notre invité, qui a, entre autres, daté le plus ancien squelette d'Australopithèque, découvert dans des grottes d'Afrique du Sud. Face au présent, voilà ce que ça inspire à ce chercheur d'os et de fossiles.
Il y a quelque chose qui m'interpelle quand on étudie le passé, notamment l'histoire du peuplement européen, c'est de voir qu'en fait, bien, tout le peuplement de l'Eurasie en général s'est fait par vagues successives qui venaient d'Afrique. On est aujourd'hui confronté à des problèmes justement de crise migratoire. Et finalement, ce qui a façonné l'homme d'aujourd'hui en Europe, c'est justement toutes ces vagues de sortie d'Afrique qui ont amené des patrimoines génétiques, mais qui ont amené aussi de la culture, qui ont amené des techniques, comme notamment l'agriculture et des choses comme ça. Et donc finalement, aujourd'hui, on est face au présent, finalement, même type de phénomène, qui n'est que finalement la suite d'une très très longue histoire. C'est comment l'Afrique a alimenté, finalement, et a diffusé les hommes et les informations depuis des millions d'années.
Il faut la continuer, Félouine Sarr, cette longue histoire de l'Afrique vers le reste du monde.
Oui, c'est absolument important de se la rappeler, non pour réaffirmer une sorte de primauté qui serait liée aux origines, mais pour rappeler justement que l'histoire du peuplement du monde est aussi une histoire africaine, et que le continent non seulement a peuplé le monde par vagues successives, mais a continué à produire de l'être et de l'histoire sur le continent. Lorsque Homo sapiens est sorti d'Afrique, ben, d'autres sont restés, et qu'il y a plusieurs cycles de temps longs, il y a plusieurs régimes de temporalité, et qu'il y a une coprésence dans le continent de plusieurs histoires longues. Et que ça, c'est un réservoir extrêmement important d'expérience, d'ingéniosité, de rapport à la vie, de ressources, et que probablement, justement, si on veut faire pleinement face au présent, bah, ce serait bien aussi de se fonder sur les ressources qui existent, qui sont là depuis le temps long, et qui ne demandent qu'à être réactivées, et réensourcer, quoi, et revitaliser. Donc c'est important aussi de s'inscrire dans un temps long, lorsqu'on fait face à un présent qui semble obscur ou perplexe ou difficile. Donc, y compris sur la question des mobilités, c'est absolument important de rappeler que l'histoire du monde et du peuplement du monde est une histoire de mobilité et de circularité, quoi. Et que c'est un fait qui est consubstantiel à la formation des sociétés. Et que dans leurs strates les plus anciennes, ben, ce fait a toujours été là, quoi. Et on ne peut pas le penser dans le présent en faisant abstraction de cette longue sédimentation de trajectoires historiques.
Il faut arriver à refaire du lien véritablement pour aujourd'hui, en s'inspirant à la fois d'un passé commun, mais aussi d'un passé divers, et pour envisager justement des pistes face au présent pour un avenir commun et divers. C'est quand même ça aussi qu'il faut défendre.
L'un de nos grands défis, c'est d'être à nouveau en mesure de faire monde, ou je dirais de refaire monde. Et refaire monde, c'est quoi? C'est retravailler à la reliaison sociétale et retravailler à un imaginaire pluriel. Et c'est un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'après tout, qu'on le veuille ou pas, nous partageons le même destin fondamental, quoi, d'être des êtres humains. Et peu importe les géographies d'où nous venons, peu importe notre histoire, nous sommes quand même une communauté qui partage le plus grand nombre d'invariants. Et cette idée de refaire monde en partageant un pluriel, un divers, mais aussi des invariants, une condition humaine, qui est celle d'être des idées qui ont évolué, c'est peut-être ça aussi l'un de nos grands enjeux aussi. Comment refaire monde et comment repenser la mutualité et qui nous sommes ensemble. Et là-dessus, notre époque est pleine de défis, quoi. Je veux dire, le retour des actes non-nationalistes, des visions étroites de l'appartenance, des barrières, de la construction de la communauté des uns contre les autres et toutes ces idéologies qui refleurissent, bah, nous devons aussi les prendre à bras le corps en inventant un autre imaginaire de qui nous sommes et comment nous faisons communauté ensemble et qui appartient à la communauté.
Merci beaucoup, Félouine Sarr. On compte sur vous pour réinventer un imaginaire pluriel et refaire monde face au présent. Vous serez donc, je le rappelle, à Washington pour cette Nuit des idées, et puis ensuite à New York, et ensuite, j'imagine, retour à Dakar. Merci infiniment. Face au présent, à la veille de cette nuit des idées autour du monde, on laisse Félou Nsar s'envoler de Dakar pour Washington. Et nous, on s'arrête un peu plus bas sur le continent sud-américain, du côté de Rio, pour tisser d'invisibles liens entre le Brésil, le Burundi et la France. On écoute l'inspirant duo formé par l'écrivain et rappeur Gaël Faye et la brésilienne Flavia Coelho sur RFI.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches. On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches. Demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
A situação aqui tá difícil, faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da Gino de Paris, cê torce pro PSG.
Gaël Faye et Flavia Coelho, balade brésilienne sur RFI de Sao Paulo jusqu'à Paris pour la 4e édition de la Nuit des Idées. Autour de la question comment faire face au présent, nous faisons escale maintenant à la Maison des Métallos à Paris, où sera présente d'ailleurs la chanteuse brésilienne Flavia Coelho en compagnie d'autres artistes, de chercheurs, de penseurs et de citoyens du monde, tous engagés pour recréer du lien, pour retisser un nouveau tableau d'un monde plus juste, à l'initiative de l'AFD, l'Agence française pour le développement, une soirée pour recréer du lien à laquelle vous allez participer. Émilie Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous pour plaider le droit des générations futures, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, merci à vous.
Vous êtes maître de conférence, Émilie, maître de conférence en droit à l'Institut d'études politiques de Rennes en développement durable et en droit des générations futures, co-directrice du pôle de recherche pluridisciplinaire RISC à la Maison de la Recherche en sciences humaines de l'Université de Caen. On peut dire, Émilie Gaillard, que vous êtes une pionnière de ce droit des générations futures. Votre thèse, une des premières du genre, je crois, en 2008, a d'ailleurs reçu le prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Face au présent, puisque c'est la thématique de la Nuit des idées, c'est un droit, c'est un devoir pour nous que de penser aux générations futures, alors que longtemps le droit ne s'y est pas intéressé.
Oui, tout à fait. En fait, on est un changement de paradigme. On parle même des fois de révolution copernicienne, parce que jusqu'alors, le droit n'avait pas besoin de s'occuper des générations futures, comme l'éthique, comme l'histoire. L'avenir était toujours ouvert, en fait. Et notre entrée dans la civilisation technologique fait qu'aujourd'hui, nous mettons l'avenir en danger. En fait, l'avenir de l'avenir pose question.
L'avenir de l'avenir.
Oui, l'avenir de l'avenir est en danger. Et dès lors que l'on met en danger l'avenir, ça renverse complètement les perspectives éthiques, scientifiques, y compris juridiques. Donc le droit de l'avenir a désormais vocation à advenir. Ma thèse s'inscrit en fait en relais des premiers pionniers en fait. Il y a plusieurs vagues de croissance de ce droit des générations futures. Il y a les pionniers comme Edith Bronfweiss, Tony Opoza, d'autres auteurs qui ont pensé l'idée des générations futures. Moi, je fais partie de la nouvelle vague où on passe des idées à la mise en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une troisième vague d'évolution, puisqu'on voit autour du monde des actions en justice au nom des générations futures.
Alors, on voit autour du monde à la fois des actions en justice, on voit des manifestations autour du droit des générations futures. Rappelons vraiment que c'est à la fois quelle planète finalement allons-nous laisser aux générations futures, quelle planète allons-nous léguer, donc question d'environnement, environnemental, sociétal, question d'équité, de justice, mais aussi question fondamentale liée aux nouvelles technologies, liée aux avancées de la science, quelles conditions humaines, c'est ça.
Il y a deux grands pôles, effectivement, qui sont présents dès ma thèse. française, à savoir que c'est un concept qui est inscrit au cœur de la définition de l'objectif de développement durable, cette idée de génération future. En fait, il n'y a pas de droit de l'environnement, pas de droit international de l'environnement sans penser aux générations futures. Donc ça, c'est tout un pôle qui paraît assez évident pour l'ensemble des personnes. Par contre, dans ma thèse également, j'ai intégré l'intégration des générations futures au niveau de la protection de la condition humaine. C'est-à-dire la condition de l'espèce humaine est prise en compte aussi dans ce droit des générations futures. Nous avons des dispositions qui interdisent l'eugénisme, par exemple, ou qui interdisent, en droit français, le clonage humain. Néanmoins, nous connaissons des révolutions scientifiques, il y a même des idéologies qui progressent, qui revendiquent clairement et sans complexe de recourir à l'eugénisme, notamment une frange du transhumanisme. Donc, le droit des générations futures, c'est un droit qui se veut humaniste, un humanisme renouvelé, en lien d'interdépendance avec la nature, d'une part, mais également qui vise à préserver la condition humaine de l'espèce humaine.
Et ça, c'est de notre responsabilité face au présent, hein, j'en reviens à cette thématique de la nuit des idées, c'est de notre responsabilité aujourd'hui.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, si nous n'anticipons pas ces questions qui peuvent paraître très philosophiques, très lointaines pour certains, mais qui sont en fait la réalité de notre mode technologique d'aujourd'hui, nous pouvons passer à côté de déviances sur le destin de l'humanité. Si nous n'intégrons pas la finitude par rapport aux ressources minérales, aux ressources de la biodiversité, à terme, il n'y aura plus d'économie. Si nous n'intégrons pas aujourd'hui dans les bioéthiques des questionnements à long terme sur les modifications génétiques, sur les risques de déviance, sur les risques de dictature et de surveillance généralisée, sur les risques d'implantation d'implants sur les personnes, on passe à côté d'une responsabilité qui se joue aujourd'hui, mais à l'égard de la société de demain.
Face au présent, Émilie Gaillard, autour de cette question, quel droit hein, pour les générations futures ? Je propose tout de suite un nouvel éclairage, en forme d'interrogation également, soulevé par le paléontologue Francis Duranton, qui dirige le Muséum de Toulouse et qui était récemment notre invité.
Je crois que le présent, on commence à avoir des idées de ce qui va se passer, en tout cas au niveau de l'évolution globale de la planète, dans les deux siècles à venir, disons. On voit bien qu'on va aller à coup sûr vers une augmentation de température. Cette augmentation de température va poser de vrais grands problèmes globaux à l'humanité et face à ces actions, à ce qui va se passer, c'est-à-dire on sait qu'on va avoir des zones qui vont être recouvertes par l'eau. On sait que dans ces zones qui vont être recouvertes par l'eau, ce sont essentiellement les zones très très basses où on a des populations qui sont très nombreuses, souvent peu éduquées et qu'il va donc falloir trouver des solutions pour accueillir ces populations-là, trouver des solutions où l'empathie va devoir jouer et où peut-être on va être amené à repenser le rôle de toutes nos structures internationales, l'ONU et autres. Il faut aujourd'hui que ces grandes de structures, de réflexion internationale, d'organisation du monde, se mettent à penser peut-être sur d'autres paradigmes que ceux qui étaient les nôtres jusqu'à présent. Et je crois que face au présent, la question qui nous est posée, c'est quel paradigme pour demain ?
J'imagine que vous êtes d'accord avec Francis Duranton. Émilie Gaillard, un autre paradigme pour demain, ça veut dire de nouvelles protections juridiques, en l'occurrence.
Oui, alors, on est complètement aussi dans le prolongement du droit des générations futures, donc je suis très heureuse de rebondir sur cet extrait. J'étais à Sendai lorsque l'ONU négociait la Convention internationale sur la prévention des risques de catastrophes, et on y a plaidé justement l'intégration des droits de l'homme avec le professeur Michel Prieur. En fait, il faut anticiper dès à présent sur ces élévations du niveau des mers, sur les mutations et les nouvelles vulnérabilités, et ça c'est possible à l'échelle de l'ONU. Donc c'est l'un des objectifs de cette convention internationale, c'est également l'un des objectifs dans le nouvel agenda des ODD, ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, qui est un agenda à l'horizon 2030. Il faut effectivement aussi changer de paradigme pour faire face à cet avenir qui se joue maintenant. Et donc, ce changement de paradigme, à l'échelle internationale, pour aller à l'essentiel, le droit international s'est construit sur une opposition entre guerre et paix, et sur le paradigme de l'État-nation qui se considère comme souverain. Or, les enjeux environnementaux sont de l'interdépendance, du transnational et du transgénérationnel.
Hein.
Exactement. Donc, on dépasse toutes les frontières que l'on pensait jusqu'à présent en droit. Et ce droit transgénérationnel participe de ce changement de paradigme, tout comme le droit transnational. Et en fait, on a aujourd'hui vraiment de grands défis en tant que juriste, mais pas que. On a besoin de toutes les sciences pour anticiper ces grands bouleversements à venir.
Et est-ce que vous êtes entendu justement des grandes instances internationales ? Est-ce que ces grandes organisations arrivent à changer un peu leur fonctionnement, à intégrer ce que vous dites ? Est-ce que vous ne plaidez pas dans le vide ?
Alors, moi, je ne suis pas toute seule. Déjà, il y a toute une famille de chercheurs sur le droit des générations futures. C'est vrai qu'en France, j'ai longtemps été la seule. Hein, ma thèse date de 2008. Et elle était un peu vue comme un ovni juridique. Mais tout de suite, j'ai été primée par l'Académie des sciences morales et politiques. Et le professeur Mireille Delmas-Marty, professeur au Collège de France, est vraiment ma mentor. Hein. Mais à l'échelle internationale, nous sommes toute une famille. Donc, il y a des avocats qui sont pionniers de ce droit des générations futures. Il y a de grands professeurs. Et dans les instances internationales, ce qui est assez remarquable lorsqu'on y assiste à ces réunions, à toutes ces COP, c'est que la société civile est très organisée. Mmh. Et en fait, ce sont même les jeunes qui systématiquement la parole, toujours 2-3 minutes. Alors ça peut paraître pas grand-chose, 2-3 minutes, mais c'est l'équivalent presque de la prise de parole d'un État. Donc la société civile s'organise énormément et je pense que ce droit des générations futures, il est en train d'être accaparé par toute la population et je pense que l'histoire nous donne raison, en tout cas quand on regarde l'avènement de cette justice climatique.
Justice climatique, le droit des générations futures, c'est un droit inédit, à la fois parce que vous le dites, il est soutenu, porté par la société civile, mais aussi parce que vous nous forcez, ce qu'on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui, à penser sur le temps long.
Tout à fait. En fait, les défis sont multiples et en cascade. Donc, en droit, il faut tout réformer, en fait, la manière de penser, les grandes ossatures, la théorie du sujet de droit. C'est également une nouvelle façon de mettre en œuvre et de raisonner en droit, mais on a déjà plein d'outils. Le principe de précaution en fait partie. C'est un droit qui est porté par les académiciens à l'ONU. Il y a le professeur Edith Brunweiss, notamment, qui est la grande pionnière dedans. C'est un droit qui est aussi porté au niveau éthique par d'autres scientifiques, qu'il faut rendre hommage au commandant Cousteau, hein, qui avait initié une déclaration des droits des générations futures, qui aboutit à l'UNESCO à un vrai texte de déclaration de responsabilité et, à l'égard des générations futures. Donc, je peux dire que ça se diffuse un peu partout.
Partout dans le monde entier
Oui, parce qu'en fait, il y a des collègues un peu partout et il y a des expériences un peu partout. Donc là, en ce moment, par exemple, si je dois citer la première affaire en justice qui a été remportée au nom des générations futures, c'était en 1993, lorsque l'avocat philippin Tony Opoza, qui est un de mes mentors, a remporté une affaire qui paraît complètement folle. Donc c'est un avocat qui sort de Harvard et qui dit, si là, on laisse la déforestation philippine se faire à la cadence actuelle, dans 20 ans, il n'y a plus de forêt. Donc, il a saisi la justice, première instance, pas réussie, et arrivé en Cour suprême, il a remporté l'affaire devant la Cour suprême, qui a statué au nom des générations futures, en disant qu'effectivement, il avait raison, il avait un intérêt à agir au nom des enfants et des générations futures pour préserver les forêts des Philippines. Cette jurisprudence qu'on appelle de l'équité intergénérationnelle, mais que je préfère formuler en termes de responsabilité transgénérationnelle, car ça dépasse les frontières, permet de préserver maintenant les océans de l'exploration sous-marine. Et aujourd'hui, il est encore sous d'autres fronts sur le terrain du nettoyage de la baie de Manille. Ça, c'est une affaire. Mais ça a ouvert le sillage pour plein d'autres actions en justice au nom des générations futures, pour préserver la forêt en Colombie, pour préserver le climat. Et tout ça est en train de se faire aujourd'hui avec une vigueur absolument impressionnante.
Alors, vigueur impressionnante de ces actions menées en justice pour le droit des générations futures, vigueur impressionnante de la mobilisation des citoyens du monde. La vigueur, elle est moins impressionnante du côté de nos dirigeants, on va dire, parce qu'on a parfois l'impression d'un recul pour nos générations futures. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors moi, ce que je pense, la différence que j'ai en tout cas en tant qu'universitaire, c'est qu'au moment où j'ai soutenu ma thèse, déjà, on me rigolait au nez quand j'ai commencé ma thèse. Lorsque j'ai soutenu ma thèse, je devenais crédible et d'ailleurs, j'ai pu passer au stade de maître de conférence. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ce qui est vraiment remarquable, c'est de voir à quel point la société civile s'empare du sujet. Maintenant, n'attend plus que cela vienne du haut et souhaite faire ce qu'on appelle du bottom-up, faire
c'est
remonter.
Ça, elle est en avance.
Elle est en train de faire remonter ce message. Et lorsqu'on voit la diffusion à l'échelle internationale des mobilisations sur le climat, bon, bien sûr, on n'est pas devin, mais il y a un signe, il y a un indicateur historique assez fort. Et c'est la même chose aussi sur d'autres terrains, sur le terrain des pesticides. J'étais dans le tribunal international Monsanto, en tant que membre du comité d'organisation, avant et après le tribunal, il me semble clair que la société civile est clairement plus informée des méfaits liés à l'exposition aux pesticides. Donc, je pense vraiment qu'on peut faire confiance dans le mouvement citoyen qui est en train de se faire.
Avant cette nuit, des idées autour de la question comment faire face au présent pour construire donc ensemble un autre futur désirable. Émilie Gaillard, vous avez cherché l'inspiration musicale du côté de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ça fait du bien par où ça passe.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
Merci pour ce choix, Émilie Gaillard. Louis Armstrong, What a Wonderful World. C'est donc Louis qui le chante sur RFI, mais pas que, c'est ça. D'autres reprennent cette chanson qui met de bonne humeur.
Ah oui, spéciale dédicace à Tony Opoza, l'avocat philippin. En fait, c'est une personnalité hors du commun. Et dans les grandes réunions internationales de la Commission internationale des droits de l'environnement, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, il est capable de diffuser toute son énergie positive, de faire chanter, danser les juges, les avocats, les juristes, les académiques du droit de l'environnement. Et voilà, je ne pouvais pas faire cette émission sans faire cette spéciale dédicace.
What a Wonderful World, c'est un vœu pieux ou c'est une réalité encore pour vous qui défendez les droits des générations futures, Émilie Gaillard?
C'est vraiment le combat, en fait. Je pense que c'est le combat d'une vie. Il faut vraiment qu'on donne un retour à cette terre qui nous porte, qui nous donne la vie, qui nous donne tout, en fait. Et ce sont les hommes qui ont déformé en mettant des frontières, en diffusant des polluants, en ne pensant pas à la complexité du monde. Je pense que surtout les Occidentaux se sont coupés de cette complexité. Lorsqu'on va dans les conférences internationales, ce qui est frappant, c'est de voir les peuples autochtones, en fait, de quels que soient les continents, ils parlent tous la même langue. Et c'est là où j'ai réalisé qu'ils ont... En fait, il y avait une valeur universelle. C'est ce lien de respect avec la mère nature. Et nous, les Occidentaux, par ce droit des générations futures, nous pouvons rejoindre leur logique à eux de respect de l'environnement, je pense.
Rejoindre leur logique à eux de respect de l'environnement et de lien, parce qu'on ne l'a pas tellement souligné, mais le droit des générations futures, c'est vraiment de se penser humain, interdépendant, mais dans une longue chaîne. Hein,
exactement.
Passé, présent et futur, c'est quand même
exactement,
ça.
Dans ce lien transgénérationnel et en interdépendance avec la nature. Donc c'est une vision qui, je pense, parle plus aux Occidentaux, mais je suis tout à fait consciente et aussi respectueuse du pluralisme juridique et des cultures. Il faut savoir que d'autres cultures ont d'autres cosmogonies, c'est-à-dire d'autres visions de leur être au monde, comme ces peuples autochtones. Et c'est là où on voit émerger d'autres jurisprudences davantage fondées sur les droits de la nature, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit enfin, dans la Constitution en Amérique latine, où on voit les droits de la Pachamama qui sont reconnus.
La terre-mère.
De la terre-mère, voilà.
Et on pourrait s'en inspirer effectivement, c'est-à-dire penser c'est un droit international pour les générations futures?
Ah oui, tout à fait, mais ce principe d'équité intergénérationnelle est inscrit déjà dans beaucoup de textes de droit international. Il y a en fait, si vous voulez, une nébuleuse de dispositions qui les défendent déjà directement et indirectement. Donc indirectement par le principe de précaution qui vise à anticiper un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement et qui donc change les inclinaisons de pensée vers l'anticipation des risques. Donc ça, c'est fondamental. Mais il y a aussi ce principe d'équité intergénérationnelle ou l'objectif de développement durable qui mettent de la place, qui offrent de la place à ces générations futures dans le droit. Donc c'est déjà en train de se diffuser. Et alors la nouvelle étape serait de créer un défenseur des droits des générations futures, ce qu'on appelle un ombudsman des générations futures. Alors c'est une institution qui a été déjà identifiée et créée en Hongrie avant que cela change de gouvernement. Et donc c'est une institution qui a créé en fait. C'est un nouveau type de défenseur. Il y a aussi une possibilité d'intégrer les intérêts des générations futures dans l'élaboration des textes juridiques, que ce soit à l'international, mais au régional et au national. Donc ça, il y a une expérience au niveau de la Knesset, notamment, en Israël. Donc en fait, il y a une multiplicité de voies de défendre ces générations futures. Elles sont à l'œuvre, j'en décrivais certaines dans ma thèse, et d'autres sont à penser, et d'autres sont actuellement à l'œuvre.
Et elles sont portées souvent par des jeunes, hein, par les prémices des générations futures, par des jeunes, et sur tous les continents.
Sur tous les continents, tout à fait, avec des logiques variées, en fait. Hein. Si c'est, pour certains, ce sera droit de la nature, pour d'autres, droit des générations futures, pour d'autres, ce sera la responsabilité climatique, pour d'autres encore, la responsabilité en cas de crime contre l'environnement, donc on parle beaucoup d'écocide. On a encore ce barrage minier qui vient de rompre au Brésil, et ça ne peut plus aboutir à de l'impunité. Il y a vraiment à réformer les responsabilités pénales par rapport aux pollutions.
Des grandes entreprises notamment, et on parle d'écocide, c'est ça, on lit un génocide, un écocide.
Écocide, c'est-à-dire un crime majeur à l'égard de l'environnement. Donc ça, c'est un concept qui est porté de longue date par différents juristes, par différents ambassadeurs, les universitaires partout en parlent et cherchent à éprouver. On l'a éprouvé également, sa pertinence dans l'expérience du tribunal international Monsanto. On a pris un risque en le proposant parce que les juges auraient pu ne pas le retenir. Ils l'ont pleinement retenu. Ce concept a pleinement sens. On en a fondamentalement besoin, que ce soit depuis la Cour pénale internationale aux droits nationaux et aux droits régionaux, tout simplement parce que si l'on nous prive de la base, c'est-à-dire des ressources, du vivant, à terme, il n'y a plus de droits humains non plus. Donc tout ça, c'est une boucle récursive, hein, tout est lié en fait. Ne pas reconnaître la protection de l'environnement comme un intérêt fondamental, à terme, c'est se mettre des œillères sur le patrimoine des générations futures et leurs besoins.
Merci de nous le rappeler. Vous allez le rappeler d'ailleurs à la Maison des Métallos pour la Nuit des Idées. Ce sera demain, jeudi soir à Paris. Vous serez en bonne compagnie pour secouer un petit peu la thématique. C'est recréer du lien, renouer les liens. C'est rappeler l'interdépendance, mais c'est aussi se mobiliser aussi pour être en force, pour défendre tous les droits des générations futures.
Oui, bien, l'objectif, c'est de partager cette pensée la manière la plus large et la plus simple possible, pour qu'en fait, cette idée, vous savez, quand on change de paradigme, c'est lorsqu'une idée nouvelle qui paraissait un peu hors du temps ou décalée, après un changement de paradigme, elle revêt la force de l'évidence. Donc si j'arrive à faire passer ce message de la nécessité du droit des générations futures avec cette force de l'évidence, j'aurai gagné ma présentation.
La force de l'évidence, ben nous on y croit. Hein. En tout cas, chez nous, ça marche sur RFI. Donc pour recréer du lien partout sur Terre et entre les générations, vous plaiderez la force de l'évidence pour le droit des générations futures. Émilie Gaillard, au cours de cette Nuit des Idées, jeudi 31 janvier à la Maison des Métallos à Paris, vous serez en très bonne compagnie. Allez, on peut citer l'économiste engagé Daniel Cohen, mais aussi des acteurs de la Ligue d'improvisation pour tisser d'autres liens à l'initiative de l'AFD à la Maison des Métallos à Paris. Merci d'être passé dans notre studio.
Merci beaucoup à vous.
Autour de la question. Caroline Lachowski.
Autour de la question, comment faire face au présent dans la nuit des idées autour du monde, nous avons bientôt rendez-vous avec le mathématicien Cédric Villani. Avant son départ pour le Niger, il sera à l'Institut français de Niamey pour un débat autour de la science, projet ou problème, point d'interrogation. Et pendant ce temps-là, à Los Angeles, au Muséum d'histoire naturelle, rencontre et débat avec un explorateur et chercheur aux limites des possibilités du corps humain en conditions extrêmes. Il s'appelle Christian Clotte et il fait face au présent.
Le présent, il est là pour préparer le futur. Et nous sommes actuellement face à des défis immenses, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient technologiques, sociétaux. Et nous allons devoir y répondre en comprenant mieux comment nous sommes capables d'agir concrètement pour évoluer vers un futur meilleur possible pour les générations futures. Nous avons des craintes pour le futur, il est vrai, mais nous devons néanmoins construire notre futur en trouvant le plaisir nécessaire de vivre le présent. Rien ne se construit dans la peur, dans le doute et dans la violence. Il faut retrouver la capacité du plaisir, de l'émerveillement, des choses les plus simples de la vie et tout simplement de l'amour. Parce que si nous trouvons quelque chose à aimer, alors nous pouvons construire ce que sera demain.
Avec amour, donc, direction l'Institut français de Sofia en Bulgarie, où l'astronaute Claudie Aigneret partagera, elle, son expérience, ses interrogations et ses rêves face au présent.
Quand j'ai entendu « face au présent », j'ai pensé « faire face ». Est-ce que c'est faire face à un ennemi, un compétiteur ? Est-ce que c'est faire face au présent pour pas se retourner vers le passé, en avoir la nostalgie ? Est-ce que c'est faire face pour agir, être dans l'action efficace ? C'est là où je veux me situer. Face au présent, c'est sans doute aussi dépasser ce présent, pour qu'on ne soit pas simplement une fabrique du passé. C'est sans doute vivre dans un présent réel, et puis c'est dépasser ce présent pour préparer l'avenir, et pour que la jeune génération s'engage, se mobilise. Et il faut l'accompagner en lui faisant comprendre ce qui est désirable dans le réel, et pourquoi il faut changer le monde physique pour les défis d'aujourd'hui.
Parmi les défis d'aujourd'hui, soulevés dans cette nuit des idées autour du monde face au présent, il y a de nombreuses interrogations autour de la science projet ou problème, point d'interrogation, débat et échange qui s'annoncent animés à l'Institut français de Niamey, au Niger, autour du mathématicien et député Cédric Villani. Nous l'avons joint juste avant son départ pour Niamey. Nous avons joint Cédric Villani, ce scientifique très engagé en politique, de retour bientôt donc sur le continent africain. Pour y faire quoi au fait ? Pour y développer quoi ?
D'abord, ça va être l'occasion de parler non seulement du fond, mais aussi de la forme, si je peux dire. On va évoquer la façon dont la science est en train d'évoluer, y compris sur certaines thématiques sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps pour le gouvernement, comme l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça fait ? En même temps, on va s'interroger sur la façon dont on en parle, dont on échange là-dessus, dont on informe et dont on partage, à une époque où il y a un consensus international sur le fait que l'un des risques les plus importants qui pèsent sur la science à l'échelle mondiale, c'est tout simplement la désaffectation, le fait qu'on n'arrive plus à recruter assez de jeunes motivés pour en faire, le fait que dans les universités, les filières scientifiques n'ont pas assez rempli, le fait simplement qu'on manque de personnes motivées. Et bien sûr que le monde entier a son rôle à jouer là-dedans et que au Niger, on parlera aussi de ça, dans un pays qui a potentiellement tant et tant de ressources d'étudiants qui pourront tracer leur route en France, au Niger ou ailleurs. Comment on fait pour mobiliser ?
Comment on fait pour mobiliser, finalement, que ce soit en France ou sur le continent africain ? Ce ne sont pas les mêmes questions qui se posent, mais comment on fait pour mobiliser face au présent pour un futur désirable ? Parce que c'est ça la question aussi.
Oui, bien sûr qu'il faut arriver à gérer l'urgence, mais en même temps se projeter dans le futur. Former un scientifique, ça prend des années et des années. Et il ne faut surtout pas croire que la science, ça va être quelque chose d'abstrait qui fournit des solutions quand on en a besoin. La science est une activité avec sa culture, son partage, ses communautés, et ça se crée dans la durée en s'interrogeant à toutes les échelles. Et le futur désirable, il se fait aussi avec des technologies dont on ne sait pas a priori qu'elles auront leur rôle à jouer. Si on avait, il y a 20 ans, dit on va se concentrer sur les techniques algorithmiques qui sont efficaces, on ne serait pas en train de parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, parce que les technologies qui finalement se sont avérées efficaces, ce ne sont pas celles sur lesquelles on misait. Donc, quand on parle d'évolution scientifique et développement scientifique et technologique, on parle avant tout de curiosité, de transmission, de partage de rêves et de motivation. Et c'est sur la base d'un éventail suffisamment large, d'un écosystème suffisamment varié, qu'on arrive à voir émerger les solutions. Si on pense bute trop tôt, on n'y arrive pas.
Donc finalement, c'est un peu ça que vous allez aussi défendre sur le continent, Cédric Villani, c'est que la recherche se fait sur le temps long, qu'il faut laisser le pouvoir à l'imagination, à la création, à la créativité, pas dans un but précis. C'est tout ça que vous allez défendre pour justement les générations futures sur le temps long.
Bien sûr, et dans l'ouverture internationale. Ça fait longtemps maintenant que je me rends régulièrement sur le continent africain pour des conférences, des visites, des cours, toujours en partenariat, en association étroite avec des enseignants intellectuels et scientifiques locaux. Et ça a été au Bénin, ça a été au Cameroun, ça a été au Sénégal. C'est aussi dans cette habitude que s'inscrit ce voyage au Niger. Et à chaque fois, en insistant bien sur le fait que le plus important, c'est la création d'une communauté locale, un cadre dans lequel les jeunes élèves soient accompagnés, encadrés, motivés, puissent partir se former à l'international, puissent revenir, repartir, et ainsi de suite. Sans quoi on ne pourra jamais faire émerger une communauté qui sera à la hauteur des ambitions.
Libre circulation des idées, des hommes, des étudiants et de la science.
En tout cas, une façon de renforcer la possibilité de partage et de circulation des étudiants, des idées, en ayant bien en tête que la science grandit très mal quand elle est encadrée de trop près et que la science a besoin du contact international. Nous sommes ici sur une relation qui est importante pour tout le monde. Pour la France, se couper d'étudiants étrangers, c'est une bonne façon de courir à sa perte. Mais en même temps, il faut bien garder en tête que le développement de ces communautés doit se faire aussi bien dans le pays d'origine que dans le pays d'accueil. C'est bien pour ça qu'il faut aussi se rendre sur place pour parler de science et pas juste faire depuis un endroit qui est déjà un grand pôle scientifique. En Afrique, il faut aussi penser bien sûr à certaines thématiques qui ont tendance à s'inviter encore plus que d'autres. Je pense à l'environnement bien sûr, à certains sujets liés à la biologie, épidémiologie, virologie. Il y a des problématiques d'équipement qui sont considérables. L'Afrique est le seul continent à ne pas avoir de synchrotron, par exemple. Et tout cela doit se renforcer en prenant en compte en priorité numéro un la formation de ressources humaines dans un continent qui est appelé à devenir le réservoir d'étudiants du monde.
Un des messages signé Cédric Villani qui sera à Niamey, au Niger, à l'Institut français de Niamey, face au présent pour cette nuit des idées à partager sur toute la planète. Pour le programme complet, chers amis auditeurs, le lien est sur notre page. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas évidemment à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi pour de nouvelles interrogations avec Hugo Violas à la réalisation, Léo González et Tania Tikounas en coulisses. Merci de votre fidélité, merci de votre interactivité, surtout restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI. Le prochain journal, c'est dans un peu plus d'une minute.